Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, ma'am.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Jeudi 4 juin 2026, il est 6h avant minuit, vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab, et tout de suite, le flash d'Héloïse.
Le Congrès américain lâche Donald Trump. La Chambre des représentants a adopté hier une résolution ordonnant le retrait de l'armée américaine du territoire iranien. 4 députés républicains se sont joints aux démocrates pour ce vote. Vote qui reste symbolique, le président états-unien disposant d'un droit de veto. Seul moyen de le contourner, un nouveau vote du Congrès nécessitant une majorité des 2/3. Quasiment impossible au vu de la composition actuelle de la Chambre des représentants et du Sénat, composant ce Congrès américain. Officiellement, l'autorisation de cette institution est nécessaire au déclenchement d'hostilités. Une telle demande n'a jamais été formulée par Donald Trump. Les politiciens et politiciennes votent et pendant ce temps, le Moyen-Orient s'embourbe dans la violence. Ce matin, un casque bleu a été tué dans le sud du Liban, malgré un cessez-le-feu annoncé hier entre Israël et le Liban. Aïza nous en parle.
C'est un cessez-le-feu qui en a que le nom. Prononcé hier entre Israël et le Liban, il n'a pas empêché la mort d'un casque bleu ce matin. Le soldat serbe de 37 ans a été tué dans le sud du Liban. Il faisait partie des plus de 7000 casques bleus provenant d'une cinquantaine de pays. Ces derniers composent la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL. Le sergent Milovan Jovanovic, membre des forces armées serbes déployées au Liban au sein de la force des maintiens de la paix des Nations Unies, est décédé ce matin des suites de ses blessures causées par un projectile tombé sur la base de l'ONU où sont stationnées les forces de maintien de la paix, dont une partie du contingent serbe, annonce le ministère de la Défense serbe dans un communiqué sur son site internet. Depuis janvier, il était déployé sur la zone. Il laisse derrière lui une épouse et 2 enfants mineurs. C'est au cours des tirs hier près de Marjayoun, dans le sud-est du Liban, que le sergent Jovanovic a été blessé. Selon la FINUL, ce sont des obus de mortier qui lui ont causé ses graves blessures. Après des soins en urgence, il est transporté par hélicoptère au centre médical universitaire de Beyrouth, où il meurt vers 4h du matin, heure locale. 2 autres soldats auraient été blessés lors de l'attaque. Selon le ministère serbe, il s'agit des soldats des forces armées de la République du Salvador et des soldats des forces armées du Royaume d'Espagne. Pour le moment, aucune autre source n'a corrélé ces informations de nationalité. Mais alors, ce n'est pas la première fois que les casques bleus sont touchés dans les conflits. Déjà en mars 2026, 3 casques bleus avaient été tués. Puis en avril 2026, 2 casques bleus français lors d'une attaque dans le sud du Liban. Face à cela, le 18 avril 2026, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait condamné l'attaque. La FINUL dénonçait quant à elle une attaque délibérée. Aujourd'hui, il est le 7e casque bleu de la FINUL tué depuis que le Liban a été entraîné le 2 mars dans la guerre. Et la FINUL réitère son discours dans un communiqué. Les attaques contre les casques bleus doivent cesser. Elles constituent de graves violations du droit international humanitaire et de la résolution 1701 du Conseil de sécurité et peuvent être constitutives de crimes de guerre, déclare l'organisation. De son côté, The Time of Israel relaie la parole des forces armées israéliennes, affirmant que la trajectoire des tirs permet d'affirmer que les obus auraient été tirés par le Hezbollah. Je cite, « Tsahal, les forces de défense d'Israël, a déclaré avoir identifié plusieurs tirs de mortier provenant de la région de Kotrani, effectués par le Hezbollah, qui ont atterri à l'intérieur d'un avant-poste de la FINUL, dans la région de Débine, au sud du Liban. » La FINUL a annoncé qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer qui est l'auteur de ces tirs et en connaître les circonstances exactes.
Au sujet du cessez-le-feu, Israël assure continuer ses tirs et opérations dans le sud du pays du Cèdre. Selon les autorités libanaises, les frappes israéliennes ont tué plus de 3500 personnes depuis le 2 mars, début de la guerre au Liban, et en ont déplacé plus d'1 million. Merci Aïza. La conquête spatiale se privatise et les Français y auront leur place. En 2027, l'astronaute Arnaud Prost séjournera 2 semaines sur Even One. Ce module, construit par la start-up américaine Vast, est le prototype d'un vaisseau devant à terme remplacer l'ISS, la Station Spatiale Internationale. L'annonce a été faite en début de semaine par Emmanuel Macron. Le chef de l'État a officialisé un accord avec l'entreprise privée pendant le sommet Choose France. Autre point du contrat, le spationaute Thomas Pesquet, lui, retournera dans l'ISS avant qu'elle ne devienne obsolète d'ici 2030. Jusqu'à présent, les stations en orbite autour de la Terre appartenaient toutes à des groupements publics ou étatiques. Elle aussi est partie dans les étoiles. La dessinatrice et cinéaste franco-iranienne Marjane Satrapi est décédée. Elle était surtout connue pour son récit autobiographique Persepolis. Dans cette BD qu'elle a adaptée plus tard au cinéma, elle revenait sur sa jeunesse dans l'Iran puis l'Europe des années 80 et 90. Elle s'était aussi illustrée comme réalisatrice avec Poulet aux prunes et The Voices. À travers son roman graphique Femme, vie, liberté, elle s'était positionnée comme un soutien du mouvement pour la liberté des femmes en Iran. L'année dernière, Marjane Satrapi avait refusé la Légion d'honneur pour dénoncer, je cite, « l'attitude hypocrite de la France vis-à-vis de l'Iran ». Selon ses proches, l'artiste serait morte de chagrin après la mort l'année dernière de son mari, Mathias Ripa. Elle avait 56 ans. Paris a les mêmes frontières depuis 1859 et Clément Beaune souhaite les repousser. Dans une note publiée hier, le haut-commissaire à la stratégie et au plan propose d'effacer le périph, mur d'enceinte parisien. Son objectif, créer une nouvelle ville réunissant 130 communes et 7,2 millions d'habitants et habitantes. L'homme souhaite casser la limite symbolique séparant la capitale de sa banlieue. Les départements du 92, 93 et 94 deviendraient alors 40 districts dans une même grande ville. Derrière ces annonces, la volonté de simplifier le millefeuille administratif de la petite couronne parisienne. La vision de Clément Beaune, un seul maire pour une mégalopole plus efficace, plus économique et une identité commune renforcée pour les Parisiens parisiennes et banlieusards banlieusardes. La Scrèb fait son show. En cette fin d'année universitaire, l'association étudiante de Beaulieu organise des spectacles de théâtre portés par des étudiants et étudiantes bénévoles. À découvrir demain à 19h, salle Pina Bausch sur le campus Villejean à Rennes 2, une télévision française. La comédie revient sur la privatisation de TF1 en 1987 et interroge l'évolution du journalisme télévisuel. La représentation est gratuite et ouverte à toutes et tous. Et si on mettait en scène nos luttes quotidiennes, nos débats de trottoir et nos rêves de changement? Autre performance à vous proposer pour ce week-end, L'envie périple en démocratie désirable est un spectacle documentaire et circassien donnant la parole aux invisibles, aux habitants et habitantes d'un territoire, à celles et ceux faisant société dans les interstices du quotidien. Installé sur un tapis ou un canapé, vous deviendrez témoin actif d'une grande discussion à ciel ouvert. C'est politique, joyeux, collectif, un salon en plein air pour penser ensemble autrement. C'est ce samedi 6 juin à 19h dans la cour du collège Jean Moulin à Saint-Jacques-de-la-Lande. Le spectacle est accessible à tous dès 10 ans avec un tarif unique de 10 euros, 5 euros si vous êtes détenteur ou détentrice de la carte Sortir. C'est la fin de ce flash.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Et c'est l'heure de l'interview avec Solène.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Manon Rivaud, responsable du service unique pour le logement des jeunes et du GIL, Jeune Info Logement, vêtu de son haut à carreaux, et Lucien Vergès, co-directeur du 4 bis Info Jeune et son haut noir. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Le nouveau service pour le logement des jeunes, proposé au 360 dans le cadre de la démarche Agile, acteur de la jeunesse, de l'insertion et du logement, a été lancé hier, le 3 juin. Il vise à faciliter et fluidifier les parcours résidentiels des jeunes sur le territoire de Rennes Métropole. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est ce dispositif ?
Alors ce dispositif, notamment le jeune infologement, c'est l'idée vraiment d'avoir un guichet unique pour l'ensemble des jeunes de 16 à 30 ans sur l'ensemble du territoire de Rennes Métropole, pour pouvoir leur permettre de s'informer sur la question du logement, quelles que soient leurs questions, que ce soit des questions pour les accompagner dans leurs démarches administratives, les demandes d'aide financière, les choses comme ça, pour s'organiser sur leur recherche de logement, par quoi je commence, qui sont mes interlocuteurs, pour bien comprendre aussi toute l'offre de logement qui est offerte sur le territoire. On pense souvent au parc privé ou au CROUS quand on est étudiant, mais il y a aussi d'autres possibilités, donc c'est aussi leur permettre de s'ouvrir à ces autres possibilités. En tout cas, voilà, c'est de faire un petit peu le point en fonction de là où ils en sont, puisqu'on est sur un accueil gratuit, confidentiel, sans rendez-vous, anonyme. Donc on vient quand on veut, du mardi, de 14h à 18h.
Et pourquoi est-ce que c'est important justement d'avoir ces rendez-vous personnalisés ? Qu'est-ce que ça apporte en plus ?
Mais c'est vraiment de partir de la demande du jeune, de la jeune, en fonction de là où il se trouve. On va vraiment avoir tout type de demandes et nous, on est là vraiment pour les accompagner. Effectivement, on a un super guide qui s'appelle le guide Se loger dans Rennes Métropole, où il y a toutes les informations, mais en soi, ça reste un petit guide avec tout. Mais quand on ne sait pas par où commencer, et ben c'est bien d'avoir en face de nous un interlocuteur. Et on se rend compte que malgré le fait qu'on est aujourd'hui dans le tout numérique, et ben y a des jeunes qui ne sont pas super à l'aise avec les outils, notamment administratifs, où il faut quand même plutôt un ordinateur, faire des démarches, écrire des mails, mettre des pièces jointes, etc. Et que ce n'est pas toujours simple pour tout le monde. Et donc, des fois, ils ont besoin d'un coup de main. Tout à l'heure, j'étais avec un jeune qui avait juste besoin d'avoir accès à un ordinateur et qu'on l'aide pour bien remplir sur la CAF sa demande d'APL.
Et donc, tous les jeunes peuvent bénéficier de cette aide ?
De cette aide ?
De ce dispositif,
du service ? Oui. Jeune Info Logement, c'est vraiment pour tous les jeunes de 16 à 30 ans du territoire de Rennes Métropole. Donc, qu'ils vivent sur le territoire ou qu'ils veulent venir vivre sur le territoire. Puisqu'on a un bon gros tiers du public qu'on accueille qui n'est pas encore résident sur le territoire de Rennes Métropole.
Et quelles sont les démarches à faire pour venir vous voir ?
Alors, il n'y a aucune démarche à faire. Il faut nous passer un coup de fil, éventuellement, si on ne peut pas se déplacer. Mais sinon, vraiment, on est ouvert à tout, vraiment du mardi au vendredi, de 14h à 18h. Il suffit de venir nous trouver au premier étage du 360 Cours des Alliés. Et puis, on vous accueillera.
Et donc, c'est porté par l'Agile, qui est lui-même porté par quatre acteurs du territoire. WeCare, les Amitiés Sociales, l'association Saint-Joseph de Préville et le 4 bis Info Jeunes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces différents acteurs et qu'est-ce qu'ils proposent dans ce dispositif ?
Oui, tout à fait. Alors, ce sont quatre associations qui travaillent ensemble depuis 3 ans maintenant pour mettre en place ce service qu'on a inauguré hier, le 3 juin. Donc, c'est 3 ans de réflexion entre ces acteurs, beaucoup de travail, de réflexion, de discussion sur le qui fait quoi, pourquoi, etc. Mais surtout, le pourquoi. En fait, c'est des acteurs, comme Agile porte son nom, acteurs de la jeunesse, de l'insertion et du logement, qui interviennent sur ces 3 champs de compétences ou sur quelques-uns de ces champs de compétences et qui ont fait des constats. Le fait qu'on est quand même 1 habitant sur 4 sur Rennes Métropole qui a entre 15 et 30 ans et qu'on n'a pas de service dédié sur la question du logement jeune, donc ça semblait important, et puis avec des difficultés pour les jeunes. Donc vraiment, ces quatre acteurs se sont dit là, il y a quelque chose à faire, et donc ils se sont mis ensemble autour de la table. Ces quatre associations, c'est qui ? C'est WeCare, qui est la mission locale et la maison de l'emploi sur le bassin rennais. C'est Association Saint-Joseph de Préville et les Amitiés Sociales qui portent un certain nombre d'offres et de solutions de logement, notamment ce qu'on appelle les résidences habitat jeunes ex-foyers jeunes travailleurs. Et puis le 4 bis, Lucien, si tu veux
tout présenter. À fait. Le 4 bis Info Jeunes, qui est la structure information jeunesse du territoire de Rennes et de Rennes Métropole. Et nous, on travaille à favoriser l'émancipation des jeunes sur le territoire pour les jeunes de 11 à 30 ans, donc sur toutes les questions qui les concernent, entre évidemment le logement, mais aussi la santé, les initiatives, la mobilité internationale, les questions de loisirs, les questions de déplacement. Voilà.
Et comment est-ce qu'on monte un projet comme celui-là ?
Ce que je disais tout à l'heure, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de temps d'échange. Donc ça a été porté beaucoup par les directeurs de ces quatre structures, directeurs et directrices de ces quatre structures. C'est aussi des gens qui se connaissent et qui s'interconnaissent parce qu'ils se sont croisés, parce que justement ils travaillent sur la jeunesse, le logement, l'insertion. Et en fait, à force de se croiser, à force de se rendre compte qu'il y a l'ensemble de ces problématiques qui reviennent, ils se sont dit, bah là on va faire quelque chose. Et après, ce qu'on peut noter quand même, c'est qu'aujourd'hui on est dans un système où on a beaucoup d'appels à projets, d'appels à manifestations d'intérêt, etc. Et finalement, c'est les financeurs qui viennent chercher les acteurs et les acteurs qui se mettent après en ordre de marche pour répondre aux demandes. Et bien là, on est sur une démarche qui est innovante, je ne sais pas, mais en tout cas qui ne fonctionne pas de la même façon que ce système qui est en train de se mettre en place et qui se consolide, qui est vraiment 4 acteurs qui se sont dit, là, nous, on veut faire quelque chose, on va se mettre au travail ensemble et on va faire en sorte que ça marche. Donc, en fait, il y a eu une étude d'action qui a été menée pendant 2 ans, qui a été accompagnée par l'URAJ, c'est l'Union Régionale des Habitats Jeunes, Bretagne, pour faire un constat, puisque du coup ils se rendaient compte qu'il y avait un certain nombre de problématiques, mais le constat n'était pas forcément partagé ou objectivé, donc c'était aller regarder un petit peu ce qu'il en était. Et puis au bout de ces 2 ans, une étude d'action qui a été soutenue financièrement par la Caisse d'allocation familiale Ille-et-Vilaine et puis Rennes Métropole, et au bout de ces 2 ans, l'étude d'action a démontré, alors c'était les 4 acteurs dont on a parlé, mais c'était aussi toutes les associations et tous les acteurs qui interviennent sur ces champs de compétences, qui se sont mis autour de la table pour voir ce qu'il en était et commencer à voir ce qui était possible à faire. Et puis étude action, parce que action, c'était vraiment l'idée de préfigurer ce nouveau service, ou en tout cas préfigurer qu'est-ce qu'il pouvait être fait par la suite. Et donc ça a été la création de ce service unique.
Et pourquoi c'est important aujourd'hui d'avoir ce dispositif ?
Eh bien, c'est donc encore une fois, un habitant sur quatre de Rennes Métropole qui a moins de 30 ans, pas de service logement dédié à la jeunesse et pas de service logement unique, puisqu'il y a plein aujourd'hui de possibilités de logement qui sont différentes et en fait on ne sait pas par où commencer, pas comment s'y prendre. Et puis il y a aussi le fait qu'on est sur un volet un peu tendu, le logement c'est pas toujours simple. Je reprends un exemple encore de cet après-midi, j'ai une jeune de 18 ans qui sort du lycée, qui est à l'internat, qui cherche à se loger demain, mais sauf qu'elle est un peu en entre-deux, elle n'a pas encore commencé les études, elle est plutôt sur un projet de travailler à partir de l'année prochaine et en fait et ben là elle se retrouve dans un entre-deux et en fait justement Jeune Info Logement, on est là à la fois pour essayer de lui offrir des possibilités autres parce que ce qu'elle venait chercher au départ c'était un T1, sauf qu'en fait elle n'a pas de revenus, elle n'a pas de parents, pas de famille derrière elle et tout le monde veut un T1 à Rennes et pas que les jeunes. Donc en fait c'est vraiment le type de logement le plus cher et le plus difficile à avoir sur le territoire. Donc eh ben, on a parlé ensemble de colocation intergénérationnelle, de colocation à projet, de différents espaces où peut-être elle pourrait, en tout cas dans un premier temps, être logée, le temps d'avoir une situation qui soit différente, qui peut-être après avec un contrat de travail lui aurait ouvert la porte des résidences habitat jeunes, foyer de jeunes travailleurs par exemple.
Et donc pour l'instant, c'est un espace pour s'informer sur le logement de façon personnalisée, gratuite et anonyme, qui propose donc un accompagnement personnalisé dans les recherches de solutions et dans les démarches et la possibilité de déposer un dossier de demande d'entrée en résidence habitat jeune. Donc tout ça, c'est ce qui est déjà proposé, mais il est prévu de développer cette offre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui arrive ?
Alors tout à fait, la demande unique de résidence habitat jeune, foyer de jeunes travailleurs, c'est que depuis quelques mois, donc c'est tout récent aussi. Ce qui fait partie de l'accueil, information, orientation, c'était déjà en place à travers un autre dispositif qui intègre du coup le service unique et jeune info logement. Et puis ce qu'on va développer aussi, c'est de l'accompagnement sur les situations plus complexes. Aujourd'hui, on a un certain nombre de jeunes qui ne sont pas accompagnés par des travailleurs sociaux ou qui ont des besoins ponctuels d'être accompagnés par vraiment un professionnel qui va pouvoir prendre avec eux le temps d'aller voir toutes les démarches dont ils ont besoin de faire. Voilà. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas ces réponses-là. Demain, à partir du mois de septembre, on aura deux travailleurs sociaux qui sont mis à disposition par l'association WeCare. Vous me posiez la question tout à l'heure de comment ces associations-là travaillent ensemble. Mais en fait, c'est aussi beaucoup de la mise à disposition de professionnels sur des temps de travail dédiés. Voilà. Et du coup, ces travailleurs sociaux pourront prendre le temps avec les jeunes qui viennent nous rencontrer, qui sont sur des situations un petit peu plus complexes, qu'on ne peut pas juste balayer en quelques minutes, un quart d'heure ou même une heure sur le temps d'accueil, le premier accueil, mais qui ont besoin d'aller un peu plus loin. Donc c'est ça, en tout cas, pour les jeunes. C'est aussi tout un travail qui a été du coup commencé dans le cadre de cette étude d'action de maillage territorial, de lien avec les acteurs qui sont sur ces questions-là, pour faire en sorte que chacun s'interconnaisse mieux, parce qu'en fait, il y a une telle offre, à la fois il manque d'offres si on se pose du côté des individus, des jeunes qui sont concernés, et en même temps on a une pléthore d'offres qui existent, mais finalement on est incapable de tous connaître tout ce qui s'y passe, parce qu'en fait il y a plein de choses qui bougent tout le temps. Et puis il y a un petit enjeu aussi de savoir où il y a des places, ça sera peut-être dans un second temps, de pouvoir aussi dans un rêve un peu fou d'ici quelques années, enfin j'espère plus tôt, mais en tout cas de se dire on a peut-être demain la possibilité de tout de suite avoir un regard sur est-ce qu'il reste des places en coloc, est-ce qu'il reste des places chez les habitants, est-ce qu'il reste des places en habitat jeune, ça c'est possible dès maintenant, enfin voilà, des choses comme ça. Donc ça va être tout ça, tout ce lien avec les acteurs pour que chacun s'interconnaisse mieux et que les orientations vers les jeunes se fassent mieux. Moi je vois tous les jours là depuis que je suis arrivée des jeunes qui arrivent sur l'info logement sans avoir été bien orientés par d'autres partenaires, et même nous aujourd'hui on n'est des fois pas sûr de nous quand on les oriente, alors à ce moment-là on prend notre téléphone et on vérifie avant de les envoyer, mais c'était là aussi de mieux travailler avec les professionnels. Et puis un autre enjeu qui est le développement de l'offre, ce qu'on appelle le développement de l'offre, c'est en fait ce qu'on dit c'est qu'il y a pléthore d'offres, mais en même temps il y a plein d'offres qui sont inadaptées. C'est notamment le cas pour les alternants, on a 20% des alternants qui ont besoin d'une double résidence parce qu'ils ne sont pas sur le même lieu de formation et le même lieu de travail, et eux ont beaucoup de mal à trouver des solutions. Donc pour eux notamment, on pense à tout ce qui est habitat temporaire chez l'habitant. Il y a déjà des choses qui se passent, mais on aimerait aller plus loin. Donc là, on va aussi avoir des professionnels qui vont travailler spécifiquement sur ces questions-là. Travailler aussi avec les acteurs, on en parlait hier dans le cadre de l'inauguration, le CROUS à certains moments a des places pour des temps de quelques mois des fois, ou des choses comme ça. Les lycées ont des fois des possibilités, dans les internats, dans les choses comme ça. Enfin, en fait, il y a plein de petites possibilités d'hébergement qui existent. Alors là, c'est pour des temps plus courts, c'est ce qu'on appelle le logement intercalaire. Voilà. Ou alors des bâtiments qui vont être détruits, mais la destruction va se faire dans un an, deux ans. Et comme ça, on peut avoir des fois un étage ou deux étages d'immeubles qui sont occupés par 30, 40, 50 jeunes pour un temps, en fait, le temps d'une année d'études. Voilà, donc il y a plein de ces petites possibilités-là. Donc ça, c'est vraiment un gros travail de fourmi là, qui va être mis en place à partir de septembre. Pour pouvoir faire tout ça.
Et comment justement est-ce qu'on met en relation toutes ces offres avec tous ces étudiants, comment tout s'organise ?
Et bien là, il faut prendre le bâton de pèlerin, il faut aller rencontrer tout le monde, il faut se faire connaître. Voilà, il faut que tout le monde connaisse Jeune Info Logement et qu'on puisse au fur et à mesure être connu et puis continuer voilà, ce petit travail de maillage. Mais c'est un vrai travail effectivement d'aller rencontrer chaque professionnel, chaque acteur, chaque dispositif pour pouvoir être repéré. Donc bien sûr, par les jeunes, comme on le disait tout à l'heure, pour la partie information, orientation, mais aussi par les professionnels pour pouvoir faire ce travail par la suite. Et puis après, une fois que tout le monde se connaît, et ben c'est des histoires d'outils, de portails et des solutions techniques qu'on trouvera.
Donc on va terminer avec deux dernières petites questions. Avec les résultats Parcoursup qui ont commencé à tomber en début de semaine, que les jeunes vont justement s'attaquer à la recherche de logement, qu'est-ce que vous leur diriez à tous ces jeunes qui vont se lancer dans toutes ces démarches stressantes ?
Alors, de consulter notre super guide, voilà, parce qu'il y a vraiment tout, c'est vraiment un mode d'emploi, un pas à pas, et il y a tout dedans. Que s'ils ont des questions, ne pas hésiter à nous appeler ou à venir nous voir. Et de se dire que le T1, c'est pas la seule solution. Dans le parc privé, c'est pas la seule solution.
Donc, le 360, on le rappelle, ça regroupe le 4 bis et la maison des associations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est cet endroit et qu'est-ce qui est proposé aux jeunes en plus de ce nouveau service ?
Tout à fait. Après cette présentation très complète de Manon, effectivement, l'intérêt aussi de Gilles, c'est de se placer sur un bâtiment, donc le 360, qui est au carrefour de plein de thématiques. Et donc, de la même manière que Gilles prend place sur le premier étage du bâtiment du 360, on a d'autres services qui couvrent d'autres thématiques, je pense notamment au PAEJ, le point accueil écoute jeune, où on peut venir en tant que jeune discuter sans rendez-vous gratuitement de façon anonyme de santé mentale par exemple, ou le décode, le point justice, qui permet aussi d'avoir des informations sur l'accès au droit au singulier, sur vraiment le droit juridique, et puis tout ce qu'on peut mettre en place aussi avec le 4 bis info jeune, c'est-à-dire de proposer des réponses aux questions que les jeunes se posent sur toutes les thématiques, autant l'emploi, la formation que le logement, la santé et ces autres thématiques. Et puis on trouve aussi au 360 des espaces de valorisation, d'engagement des jeunes. On a une salle de spectacle qui fait 230 places où en tant que jeune on peut venir soit la réserver, soit la louer pour organiser des événements. On a un café à projet qui est vraiment un espace qui permet à des jeunes de tout horizon de pouvoir monter des projets, des débats, des conférences, des spectacles. On a accueilli Syllab, il me semble, la semaine dernière avec un partenariat avec les Transmusicales où Donella a rencontré une artiste rennaise qui a rencontré des collégiens de Rosa Parks. Donc voilà, il se passe pas mal de choses dans le bâtiment 4 bis, qui est plutôt le bâtiment, donc le bâtiment A du 360, pardon, qui est vraiment le bâtiment, on va dire, un peu réservé aux jeunesses. Et dans le bâtiment B du 360, on a toujours cette dynamique autour de la vie associative avec des associations comme Bug qui accompagnent à la vie associative, des associations comme Benenova qui accompagnent à trouver des offres de bénévolat, l'association Séisme au bâtiment A aussi qui travaille sur les questions de sens pour les jeunes autour des métiers durables, par exemple. Donc il y a pléthore d'offres aussi sur l'ensemble des partenaires et des associations qui travaillent dans ce bâtiment. Et c'est un bâtiment où on peut venir gratuitement tous les jours, juste boire un café, se poser ou venir chercher des réponses.
Alors merci à vous deux d'être venus dans le studio de Syllab ce soir. On le rappelle, vous pouvez donc retrouver le Gilles au premier étage du bâtiment A du 360, Cour des Alliés à Rennes. C'est du mardi au vendredi de 14h à 18h. Pour les contacter, c'est au 02 99 31 70 61 ou par mail à contact@logement-jeune-rm.fr ou sur le site internet logement-jeune-rm.fr.
Merci.
Merci.
6 heures avant minuit.
C'est l'heure de la chronique psychique de Marie-Lune. Aujourd'hui, on parle de l'intérêt de la formation de premiers secours en santé mentale, dite PSSM, élaborée en Australie à partir de 1997 et proposée en France depuis 2018.
Ici, on ne miaule pas, mais on dit que le soutien de la part de l'entourage d'une personne, autrement nommé le soutien social, est un facteur de protection pour sa santé mentale. À l'inverse, le manque de soutien social, l'isolement d'une personne, est considéré comme un facteur de risque. Tout le monde peut être concerné par des difficultés de santé mentale, les siennes ou celles d'un autre. Face à la souffrance psychique d'une personne, nous pouvons nous sentir démunis. D'autant que cette souffrance peut avoir plusieurs causes et se manifester de différentes manières, à différents degrés, selon chacun. La tristesse, l'isolement, la mise en danger, des propos ou des comportements étranges ou inquiétants en sont des exemples. Hélas, il est fréquent que, faute de savoir comment réagir, nous ne fassions rien, nous ne disions rien, ce qui peut être perçu comme un manque de soutien social par la personne qui souffre, ce qui peut majorer sa souffrance. La méconnaissance de ce qui est communément appelé trouble de santé mentale peut nous amener jusqu'à fuir la personne. C'est entre autres pour remédier à cet état de fait qu'a été créée la formation des premiers secours en santé mentale, inspirée par des premiers secours physiques que de simples citoyens citoyennes peuvent apprendre. Cette formation a été co-construite par des professionnels, des personnes concernées par ces troubles, des universitaires et des proches aidants et aidantes. Le but est de permettre à tout un chacun de connaître mieux les troubles de santé mentale et par conséquent de rompre avec les stéréotypes véhiculés dans la société à l'égard de celles qui en souffrent. Au cours des 2 jours de formation sont présentés les troubles dépressifs, anxieux, psychotiques, ceux liés à l'utilisation d'une substance, des addictions au jeu ou les troubles des conduites alimentaires. Dans un cadre sécurisant et de façon active, on apprend comment se manifestent ces troubles, la façon dont ils peuvent impacter les personnes concernées, quelles en sont les solutions de traitement et ou d'accompagnement les plus courantes. Les participants, participantes, s'exercent à déceler les signes de souffrance psychique et elles s'entraînent à la méthode des premiers secours en santé mentale qui leur est transmise pour aller vers des personnes dont la situation pourrait nécessiter une intervention.
Je vais prendre ta douleur.
Non, c'est pas ça. Cette intervention peut prendre la forme d'une interaction soutenante ou d'une alerte auprès de professionnels. La formation PSSM est en attente depuis avril 2025, d'une réponse à sa demande de prise en charge au titre du CPF, compte personnel de formation. Pour l'instant, son coût moyen est de 250 euros. Ce qui n'est pas neutre du tout. Elle reste néanmoins une réelle opportunité de se libérer de l'appréhension que l'on peut avoir lorsqu'on perçoit une personne semblant présenter un trouble de santé mentale. C'est un réel outil de solidarité qui rend présent à l'autre et incite à le ou la soutenir dans une juste mesure. La formation PSSM, Premier Secours en Santé Mentale, existe pour les adultes à destination des majeurs, mais aussi des adolescents, ainsi que pour les ados à destination de leurs pères. Vous trouverez les références de cette chronique à la page Psychipique.
Une chronique signée Marie-Lune, merci à toi. Prochaine chronique psychipique le mercredi 10 juin prochain. Nous avons un message sur le répondeur, on l'écoute tout de suite.
Ah, le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllab, la radio sauvage.
Coucou à toute l'équipe de 6 heures de minuit. Donc,
Alors, je pensais d'arrêter les infos locales et tout ça, mais en fin de compte, il y a encore des infos locales en ce moment. Donc là, la preuve, c'est que ce soir, il y a l'émission de Cécile, alias Cess Jamireuil, qui anime l'émission Petit Tone Radio Show sur Silab de 20h à 22h. Donc Cess Jamireuil organise bien sûr une soirée à Lubu le vendredi 12 juin 2026. Donc voilà, si vous voulez participer au jeu concours Silab, donc je pense que peut-être Héloïse ou peut-être tous les membres de Silab sont au courant de ce jeu concours, et ben il y a deux places à gagner. C'est très simple, hein. Il suffit d'aller liker la page, le compte Instagram de Silab, et puis bien sûr de l'émission Petit Tone Radio Show, que j'adore énormément parce que c'est une émission super, et puis en plus Cécile à la CES met des disques vinyles, et ça vraiment moi qui est fan de disques vinyles, je peux vous dire j'adore ces émissions. Petit copinage aussi d'une autre radio associative que j'adore et que je suis un peu aussi un auditeur fidèle de cette radio, et ben c'est la radio Canal B. Donc la radio Canal B organise une soirée bancale samedi 6 juin au Grand 8. Donc voilà, ça, si vous voulez voir tous les membres ou tous les bénévoles salariés de la radio curieuse de Canal B, et ben c'est de 19h30 à 23h au Grand 8. Il y aura un DJ set en plus, donc vraiment je pense que moi en tant que bénévole de Silab, j'ai envie de voir les autres radios associatives, comment ils fonctionnent, comment de partager entre eux radio associative. Voilà, si vous voulez aller samedi soir 6 juin 2026. Allez, je dis bon week-end, parce que demain il n'y a pas d'émission de 6h avant minuit, donc c'est bien, en plus un week-end de 3 jours, donc comme d'habitude, mais bon là il n'y a plus de jours fériés, donc... Allez, j'embrasse très très fort à tout le monde, et puis à lundi pour peut-être un autre message. Gros bisous à vous, ciao.
Ciao Benoît, faites comme Benoît, laissez-nous un message vocal 02 30 96 25 35. Ce soir aux manettes de la technique, c'était Anna, merci à toi, et à lundi dans 6h avant minuit.
La radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, mais en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit. 18h, 19h sur Silab,
la radio sauvage.